Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44 sur RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Jean-Pierre Raffarin.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Avant de plonger dans la poétique française et ses turpitudes, parlez-nous de Donald Trump, Jean-Pierre Raffarin, puisque vous rentrez de Washington, vous avez rencontré là-bas certaines de ses équipes. Par exemple, la crise diplomatique déclenchée par son coup de fil à Taïwan, après ce que vous avez eu, c'est de l'ignorance ou un coup de menton vers Pékin?
Je crois que c'est de l'impréparation, c'est de l'improvisation. Donald Trump est un vrai danger. Tout le monde nous dit là-bas que rien n'est prévisible. C'est imprévisible. Quand vous regardez le monde aujourd'hui est vraiment très déséquilibré. C'est une désintégration. Vous regardez l'Ukraine, vous regardez le Levant, les horreurs d'Alep en ce moment, ce qui se passe en Libye, la menace sur la Tunisie, le Brexit, tout ça est très négatif. Il y a eu 3 bonnes nouvelles dans la période récente. Il y a eu l'accord de Paris, l'accord sur l'Iran et la nomination d'un nouveau secrétaire général d'Alan Guterres à l'ONU. Eh bien, ces 3 nouvelles-là, il veut les remettre en cause. Il veut remettre en cause l'accord sur l'Iran, ce qui est très très grave parce qu'on risque d'avoir des tensions terribles, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il remet en cause l'accord de Paris, ce qui était une avancée quand même très importante. Et il veut court-circuiter l'ONU, alors que l'ONU, c'est quand même le lieu où les gens se parlent, où il y a du dialogue, et on ne peut faire la paix que par le dialogue. C'est pas la course à l'armement aujourd'hui qui va nous amener la paix. Ce qui amène la paix, c'est le dialogue. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ONU. On a un secrétaire général européen, Guterres, qui est excellent.
Que vous avez rencontré, donc.
Que j'ai rencontré. Il faut les aider. Et là, on voit que le président Trump veut contourner l'ONU, contourner le dialogue, c'est-à-dire un peu contourner la paix.
C'est que vos entretiens ne vous ont pas du tout rassuré. Il faut penser maintenant que l'amateurisme est vraiment au pouvoir à Washington.
Ah, je pense, en tout cas, c'est l'improvisation. Et donc, c'est très dangereux. Et donc, la transition se passe, semble-t-il, correctement. Le président Obama a veillé à ce qu'il y ait tous les travaux qui soient faits. J'ai vu, par exemple, l'équipe de transition en matière de politique étrangère. Ils travaillent sérieusement. J'ai vu les 2 parties. Mais aujourd'hui, les uns et les autres se disent « Notre président est imprévisible. Tout est possible. Or, dans un monde dangereux, il est imprévisible. » Il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui est imprévisible est un ennemi. Il faut être prévisible en politique
étrangère. C'est notre ennemi. C'est notre ennemi aujourd'hui, je
ne le souhaite pas. Et j'espère que tout sera corrigé, notamment par l'administration. Mais il est dangereux parce que.
Il est dangereux pour la paix, disiez-vous.
Le monde est trop dangereux aujourd'hui pour qu'on se laisse tenter par l'aventure.
Alors c'est anecdotique à côté, mais depuis son élection, il continue de répondre sur Twitter à tous ses détracteurs, y compris à des satiristes de la télévision américaine. Alors pour le coup, il n'a pas du tout pris la mesure, la fonction présidentielle.
Je pense que. Non, il est tout à fait aujourd'hui dans une campagne électorale qui se poursuit. Il cherche toujours la séduction, très égocentré. Et donc, il y a des inquiétudes très très fortes aujourd'hui. Espérons que le système américain et la sagesse du peuple américain arrivera à le maîtriser. Mais nous sommes aujourd'hui inquiets parce que le monde est extraordinairement dangereux. Poutine est en train de prendre des idées. Ce qui se passe à Alep, on crée des terroristes à Alep. Vous vous rendez compte, ces horreurs.
Avec les Russes qui vont encore mettre leur veto aujourd'hui aux Nations Unies.
On a 6000 terroristes qui sont chassés. Où est-ce qu'ils vont ces 6000 terroristes? Ils vont venir en partie chez nous. Donc tout ceci est horrible. Quelles seront les relations entre les États-Unis et la Russie? Est-ce que M. Trump est capable d'un rapport de force équilibré avec la Russie? Je n'en sais rien, je suis inquiet pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et notamment qu'il faut surtout serrer les rangs en Europe. Si on reste divisé, on risque vraiment des dangers importants.
Alors vous étiez aux États-Unis quand François Hollande a annoncé son renoncement à se présenter une deuxième fois à la présidentielle. À distance, ça a été un choc.
Oui, j'ai écouté ça dans la voiture qui me conduisait au Sénat voir le président de la politique étrangère. J'étais avec l'ambassadeur, nous avons écouté ça sur son téléphone portable. Ça nous a surpris, parce que naturellement, moi je ne faisais pas ce pronostic, pour être franc. Et en ce moment d'ailleurs, au point de vue pronostic, je suis moins bon que je n'ai été, mais bon.
Donc
il faut être prudent. Mais en plus, quand j'entendais son discours, je me disais, on va vers une conclusion qui s'engage. Bon, c'est un constat d'échec.
Courage ou lucidité ?
Constat d'échec, une lucidité, enfin plus exactement une impossibilité. Pouvait-il faire autrement ?
Donc vous répondez non, et pourtant vous aviez effectivement pronostiqué qu'il n'aurait pas le courage de renoncer.
C'est pas une question de courage. Ce que j'ai toujours pensé, c'est que la fonction institutionnelle était tellement forte, le costume de président est tellement important dans la Ve République, qu'à un moment je me dis il en fera quelque chose de ce costume-là, mais en fait il est allé tellement bas, il est tellement dans une telle impasse qu'il fallait bien en sortir, et il essayait d'en sortir par le haut.
C'est pénalisant pour la Ve République, le fait qu'un président sortant ne soit pas candidat à ce succession. Non,
ça n'a rien à voir, parce qu'à partir du moment où il fait preuve d'une certaine lucidité, il constate l'impasse, il y avait impasse dans le pays, il l'a constaté, point.
Manuel Valls annonce sa candidature, on l'a appris il y a un peu moins d'une heure à la présidentielle ce soir depuis son ancienne mairie d'Evry. Il va quitter Matignon pour s'y consacrer, ça va être un candidat coriace, capable de rassembler son camp, la gauche.
Vous savez, en ce moment, tout est possible. Je pense qu'il faut être très extrêmement prudent. La vie politique est très nerveuse, je dirais très agitée. On voit que l'opinion publique est plutôt en colère et plutôt mécontente. Donc, on ne sait pas comment les
vous
choses...
Vous voulez dire tout est possible, y compris une victoire de la gauche?
Je ne sais pas j'inviterai tout le monde à considérer que le mois de mai, c'est encore très très loin et qu'il faut être très sérieux, très solide, se préparer avec force et surtout ne pas sous-estimer les adversaires, car un jeune Premier ministre qui se lance dans une campagne, dans une circonstance dans laquelle on est aujourd'hui, ça peut très bien faire plof, mais ça peut très bien aussi avoir une capacité de mobilisation. Donc une grande prudence, quand le peuple est en colère, il faut l'écouter et être prudent sur ses réactions.
Encore un mot sur Manuel Valls, en poussant François Hollande à renoncer, est-ce qu'il a trahi comme le déplorent certains Hollandais?
Je ne crois pas. Il a constaté lui-même l'impasse, peut-être un peu avant le président, et donc il a cherché d'autres solutions. C'est aussi un peu sa responsabilité. Il est le numéro 2 du régime, il voit que le numéro 1 ne tient pas le coup, et donc il s'avance. Donc je pense que c'est sûr que c'est pas aimable et sympathique vis-à-vis du président, mais il a aussi une responsabilité sur les épaules et qu'il doit présenter une solution dans une situation où finalement le président n'est plus la solution.
Tout le monde a salué le succès de la primaire de la droite. Soutenu Alain Juppé. En réalité, comme le plaide d'Emmanuel Macron, c'était hier dans le journal du dimanche, est-ce que ça n'est pas la victoire de François Fillon, une victoire en trompe-l'œil quand on mesure les divergences entre lui et Alain Juppé?
Non, je ne pense pas que ce soit une victoire en trompe-l'œil. Franchement, ça a été une formidable expérience démocratique, ça a été une forte mobilisation. François Fillon a fait preuve quand même d'une constance dans sa campagne assez étonnante. Il faut dire les choses avec objectivité. Pendant 2 ans, il est dans les sondages très très bas, il continue à faire ses salles, il continue à faire ses réunions. Il a donc de la détermination.
Éloge de la constance.
Je pense que ça, les Français l'ont compris. La primaire, il faut bien considérer qu'on est à l'intérieur d'une même famille. Moi, je ne considère pas la victoire de François Fillon comme une défaite pour nous. La défaite, ce serait la victoire du Front National, ce serait la victoire des socialistes. Bon, on avait une préférence, moi j'avais une préférence, mais la victoire de François Fillon n'est pas pour nous une défaite et nous souhaitons sa victoire. Nous sommes à l'intérieur d'une même famille, cet homme est respectable, il a bossé, il a montré de la détermination. Bon, j'ai pour Alain Juppé une affection qui est irréductible, mais il n'empêche que je ne considère pas comme quelque chose de néfaste le fait que François Fillon soit aujourd'hui celui qui va porter l'espoir de l'alternance et nous l'aiderons à gagner.
Alors face à la colère des peuples, vous disiez attention à la colère des peuples, il faut faire très attention. Est-ce que François Fillon doit adoucir, doit juppéiser d'une certaine façon son programme pour espérer gagner en mai?
La campagne des primaires est terminée. La campagne, il y a eu un arbitrage, il est clair, c'est à François Fillon de piloter son
projet. Qu'est-ce que vous lui conseillez?
Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'il fasse ses arbitrages. Hein. Moi, j'ai fait des propositions avec Alain Juppé, c'est celles de François Fillon qui sont retenues, c'est à François Fillon de dire ce qu'il souhaite.
Simplement,
réfléchissons à ce qui vient de se passer avec Matteo Renzi, le référendum, c'est une boîte à claques. Donc faisons attention, le président de la République, quand il est élu, il faut qu'il considère son élection comme un référendum et qu'il fasse ses réforme vite dans les semaines qui sont juste après l'élection.
Il ne faut pas décevoir.
Moi, je pense que par ordonnance, c'est la manière d'aller le plus vite. Ce qui est très important, c'est de ne pas décevoir. Ce qui est très important, c'est... Je pense que c'est notre dernière station avant le populisme, le mois de mai prochain. Je pense que si nous ratons cette échéance-là, nous avons de très grands risques. Les Autrichiens viennent de l'éviter, nous devons l'éviter aussi.
Pour
cela, il faut agir et ne pas décevoir.
Alors,
décevoir
agir,
vite.
Agir dans le sens... avec les propositions dites ultralibérales, brutales, dit François Bayrou, de François Fillon. Est-ce que vous disiez, bon, maintenant la primaire est passée, il va...
Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, la primaire est passée, je me suis exprimé, j'ai fait 50 meetings, j'ai dit tout ce que je pensais, François Fillon sait exactement les positions des uns.
Donnez-moi un exemple de son programme, fonctionnaire, sécurité sociale, fiscalité, etc., sur laquelle il devrait un tout petit peu réajuster pour gagner.
Et moi, je pense qu'il faut éviter la multiplication des référendums. Si vous voulez un point... Je
ça, pense que
que ça c'est un point très très important. Pour le reste, on va discuter avec lui. Ce qui est important, c'est qu'il rassemble. Donc c'est un homme intelligent, il va bien voir qu'il a besoin des uns et des autres, donc il va chercher à adapter son programme pour rassembler. C'est normal qu'il rassemble, mais c'est sa responsabilité. Il est désigné de manière tout à fait incontestable. C'est à lui de prendre des décisions maintenant.
Alors, encore deux choses, beaucoup d'éléments dans l'actualité ce matin. Vous êtes tombé de votre chaise en entendant Ségolène Royal à Cuba, affirmer qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans les prisons castristes.
Bon, je dois faire partie des Français qui sont le plus habitués aux déclarations surprenantes de Madame Royal, donc je ne tombe pas de ma chaise à chaque fois qu'elle s'exprime. Mais néanmoins, il s'agit d'une faute, c'est une faute morale, c'est une faute politique. Sur la faute politique, de mon point de vue, puisqu'il y a remaniement, ça mérite sanction. La question,
elle doit être cadrée au minimum et même
bien
plus.
Sûr, mais bien sûr, il faut une sanction. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le président de la République peut avoir de l'autorité sur Madame Royal ? C'est la question que nous posons, de savoir ce qu'il va pouvoir dire. Il s'agit d'une faute politique. Cette faute politique,
elle représente
la France. Oui. Elle est dans une situation où elle dit des choses qui sont contraires à la position de la France. Ce qui est dit, je vois toutes les organisations humanitaires s'exprimer aujourd'hui, ce qui est dit est quelque chose d'inacceptable. Et donc, de mon point de vue, la République et l'exécutif doivent la sanctionner.
Donc, vous ne le prenez pas à la légère. C'est vrai que vous avez l'habitude avec Ségolène Royal, qui a été une de vos adversaires. Elle a fait marche arrière. Elle a dit un jour de funérailles, on ne dénigre pas le peuple cubain. Une forme de... Voilà.
Non, je pense que sur ce sujet, elle doit clarifier sa position. Dans le moindre des choses, c'est qu'elle clarifie cette position. Mais c'est une faute politique. Et puis quand on pense à ces milliers et milliers de morts, à ces gens qui sont en prison, il faut du respect, quelle que soit l'ambiance générale. Mais c'est souvent, vous savez, la tentation aujourd'hui, un peu du populisme ou de la démagogie, de se laisser dévorer par l'ambiance. La politique, c'est de résister à l'ambiance pour mettre les valeurs au-dessus de tout.
Ségolène Royal n'a pas résisté à la démagogie. C'est ce que nous dit Jean-Pierre Raffarin. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
Concernant la politique étrangère, Donald Trump est un vrai danger. Il veut contourner la paix en contournant l'ONU, vient de nous dire Jean-Pierre Raffarin, qui réclame par ailleurs une sanction contre Ségolène Royal. Les choses ont été tout à fait claires. Merci infiniment à l'un et à l'autre. On retrouve cet entretien dans son intégralité sur le site rtl.fr.